Europe Soir Weekend, Christophe Pallé.
Jusqu'à 19h, ça fait débat avec parmi les thèmes ce soir de l'actualité de ce samedi, la suppression de la redevance votée à l'Assemblée, le déplacement de Gérald Darmanin en Corse, on parlera aussi des RTT et du pouvoir d'achat. Face à face ce soir, Marie Lebec et Maître Jean-Yves Le Borgne. Marie Lebec,
bonsoir.
Je rappelle que vous êtes députée. Je ne sais plus.
Des Yvelines.
Des Yvelines, voilà, je cherchais. Merci beaucoup de m'aider.
Il n'y a aucun problème.
Et Maître Jean-Yves Le Borgne, qui est avocat pénaliste.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Merci à tous les deux d'être là en ce samedi soir. Alors, l'examen hier du projet de loi de finances rectificative a débuté à l'Assemblée avec une mesure contestée, la suppression de la redevance audiovisuelle qui a finalement été adoptée ce matin. C'est une bonne chose, Jean-Yves Le Borgne, la suppression de la redevance?
Bon, écoutez, je ne vois pas d'occasion de se révolter à l'idée de la suppression de la redevance audiovisuelle, non plus d'ailleurs que de considérer que la France est enfin transformée. Ça me paraît être un acquis qui est assez normal. Au fond, pour beaucoup de nos compatriotes qui sont dans la difficulté, on le sait, le fait que l'accès à l'information publique et aux programmes de distraction publique soit désormais gratuite, ça n'est pas mal. Alors, qu'on voit aussi, puisqu'on parle beaucoup de ces mesures sociales qui touchent une catégorie qui en a besoin et une autre qui n'en a pas besoin. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel le président de la République, quand il était en campagne, s'était expliqué d'une manière claire et d'une manière assez raisonnable et rationnelle d'ailleurs. Mais là, il faut bien voir aussi que si c'est l'impôt, parce que ce sera l'impôt, qui paiera l'audiovisuel public, cela veut dire que cela pèsera essentiellement sur les classes favorisées, celles qui le sont moins, étant infiniment moins, parfois pas du tout, appelées à la contribution fiscale.
Alors ça va représenter une économie de 138 euros hein, pour tous ceux qui possèdent un téléviseur et qui l'a payé, parce que ce n'était pas le cas forcément de tout le monde. Je crois qu'il y a les retraités qui en étaient exemptés.
Oui, puis elle était moins importante en Outre-mer aussi. Elle était de 88 euros en Outre-mer.
C'est une bonne mesure ou pas pour vous, Marie Lebec?
C'est une mesure sur laquelle le président de la République s'était effectivement engagé dans le cadre de la campagne. Donc on est très transparent sur sa mise en œuvre. On est dans un texte de pouvoir d'achat. Donc ça permet effectivement de rendre un peu de pouvoir d'achat à ceux qui aujourd'hui souffrent notamment de l'augmentation des prix sur l'essence, sur les produits alimentaires. Donc c'est vraiment dans la continuité. C'est une mesure importante de ce texte. Elle est en même temps, elle est emblématique parce que c'est un engagement. Et je voudrais dire aussi qu'elle s'accompagne de tout un tas de mesures complémentaires qui viennent à la fois soutenir le pouvoir d'achat, mais aussi surtout revaloriser le travail. Et puis, pour répondre à votre question, effectivement, là, les acteurs de l'audiovisuel public ont été concertés. Et ce qui ressort, c'est que c'est une part de la TVA qui va être affectée au financement.
Ça.
Donc, en réalité,
voilà,
c'est ça. On rend du pouvoir d'achat aux Français et on compense. Donc, il n'y a pas d'impact sur l'audiovisuel public dans ses ressources. Bien sûr, toujours, et ça, c'est très important, la garantie de l'indépendance de ces chaînes, qui est un critère essentiel pour nous.
Alors, la mesure était contestée, notamment à cause du risque d'une perte d'indépendance des médias publics. Je vous propose d'écouter Alexis Corbière à l'Assemblée.
L'indépendance de l'audiovisuel public est une condition pour toute vie démocratique et républicaine. Cela ne se négocie pas. Et c'est d'ailleurs sur la base de l'article 34 de la Constitution que nous allons prochainement saisir le Conseil constitutionnel. Si la télé commande aujourd'hui, qui commande la télé? Pour notre part, nous n'accepterons pas une nouvelle ORTF, un Macron Today sous contrôle politique du château.
Alors, est-ce qu'il y a un risque, Jean-Yves Le Borgne, que la mesure soit retoquée par le Conseil constitutionnel? Une question de droit pour vous.
Écoutez,
c'est cadeau.
Le Conseil constitutionnel a sa sensibilité. Il y a les critères de droit, bien entendu, mais il y a aussi la manière dont on les ressent. De la même façon, je le dis au passage parce que c'est aussi très récent, que le Conseil constitutionnel a validé la loi s'agissant notamment des associations cultuelles, récemment la loi séparatisme. Je ne vois pas, enfin, pour ma part, je n'imagine pas que le Conseil constitutionnel trouve quoi que ce soit à dire. Il y a parfois dans les discours polémiques un je ne sais quoi de glissement irrationnel. Et là, le glissement, il est dans le fait que parce que c'est l'État qui finance, ce sera nécessairement l'État qui commandera. Or, précisément, vous le disiez, Madame le député, il y a un instant, c'est précisément parce qu'il faut garantir cette autonomie, cette indépendance de l'audiovisuel officiel, de l'audiovisuel d'État, qu'il y a finalement peu à s'engager dans cette voie polémique. Mais on sait qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la polémique est reine.
Marie Lebecq, ouais, députée Renaissance des Yvelines, quand vous entendez Alexis Corbière vous dire « oui, on va vers une nouvelle ORTF, un Macron Today à l'image de Russia Today, la chaîne de Poutine, sous contrôle politique du château », votre
Mais,
réponse ?–
Écoutez, on reviendra sur ce qu'a dit les propos de Maître Lebon. La polémique est reine à l'Assemblée, voilà, et on voit bien que la France Insoumise prend un malin plaisir à jeter le doute et la suspicion sur toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement. Ce que je voudrais dire, au-delà effectivement de ce qui a été très bien expliqué par Maître Leborgne, c'est aussi qu'il ne faut pas oublier qu'en France, nous avons des autorités administratives indépendantes qui garantissent le contrôle de l'action de l'État, de l'action des services publics. Ça doit être le CSA là, pour l'audiovisuel. Et voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur ça. C'est une question de ressources. Nous supprimons la redevance pour les Français et au demeurant, nous garantissons avec le reversement d'une part de la TVA, que l'audiovisuel aura bien ses moyens qui seront préservés justement pour faire des programmes qui sont réputés de qualité.
Alors l'autre mesure qui a été adoptée dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative, c'est la possibilité pour les entreprises de racheter les RTT de leurs salariés. Maître Leborgne, c'est une bonne chose pour les salariés?
Écoutez, ça me paraît évident. Les RTT, c'est un avantage de non-travail. À partir du moment où ceux qui en bénéficient n'en bénéficient en fait pas, puisqu'ils ne prennent pas la RTT, on est un peu dans une rémunération complémentaire. Je dirais que c'est des heures supplémentaires à l'envers. L'heure supplémentaire, c'est du travail effectué en plus, et la RTT, c'est du travail effectué en moins, mais dont on ne profite pas si on ne prend pas son congé. Donc le fait qu'il y ait...
Donc c'est finalement du travail en plus quand même.
Voilà. Donc le
c'est
fait...
travailler plus pour gagner plus.
Exactement. Vieille histoire à laquelle, pour ma part, je suis très favorable. Et finalement, je dirais même que la récupération financière de la RTT non prise dans son statut de repos complémentaire m'apparaît comme une évidence.
Alors juste avant que vous répondiez, Marie Lebecq, si vous voulez bien, on écoute Arthur Delaporte, qui est député NUPES du Calvados. Pour lui, c'est simple, c'est la fin des 35 heures.
Là, vous essayez de faire passer en un amendement une remise en cause totale des 35 heures. Faut vraiment l'entendre, puisque en monétisant tous les RTT acquis via des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaire, un salarié pourra en droit ne jamais se retrouver dans les heures au-delà des 40, tout en y étant en vérité. Et donc, cette phrase-là, c'est la fin pure et simple des 35 heures.
Alors, Marie Lebecq, est-ce que c'est le retour du « travailler plus pour gagner plus » ?
Mais vous savez, quels sont actuellement, nous avons débattu depuis le début de cette législature de deux grands textes, un qui est appelé pouvoir d'achat et l'autre projet de loi de finances rectificatif qui permet de concrétiser et de monétiser finalement ce qui a été pris dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Quels étaient les objectifs de ce texte de loi ? C'est la protection, la valorisation du travail, une politique de l'offre et la lutte contre l'inflation. Je pense que c'est très très important de se rappeler qu'il y a des mesures de pouvoir d'achat, on en a parlé à l'instant, par exemple la suppression de la redevance qui vient soutenir nos compatriotes, mais il y a aussi et surtout, et je crois que c'est quand même là aussi le fond de notre politique et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a fait d'ailleurs au cours des 5 années écoulées, ce qu'on veut continuer de faire dans le mandat qui arrive, c'est-à-dire valoriser le travail. Effectivement, quand vous ne prenez pas vos RTT, et ça peut arriver pour tout un tas de raisons, familiales, personnelles, professionnelles, vous n'avez pas l'occasion, l'entreprise vous rachète et c'est une mesure de pouvoir d'achat supplémentaire. Elle vient se corréler à, par exemple, la mesure en faveur de l'intéressement qui est prise, c'est-à-dire que vous êtes dans le cadre d'une discussion sur un accord d'intéressement, elle n'aboutit pas, l'entreprise peut quand même mettre un accord d'intéressement, ce qui est quand même favorable. Le triplement de la prime Macron qui permet de passer à un plafond de 6 000 euros par mois, la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour nos compatriotes, pour les salariés. Il y a aussi des mesures en faveur des indépendants de mémoire dans ce texte de loi. Et donc ça vient valoriser le travail. Et protéger le pouvoir d'achat, c'est important, mais valoriser le travail, c'est, je crois, encore primordial et c'est le sens et le cœur de notre projet.
Vous allez dans le même sens,
je souscris à ce que dit Madame le député, mais j'ajouterais aussi que je ne vois pas en quoi le fait de payer les RTT non effectives pour le salarié concerné serait la fin des 35 heures. Je disais tout à l'heure que...
Il revient à travailler plus longtemps.
Il revient à travailler plus longtemps.
Donc plus de 35 heures par semaine.
Pas nécessairement. Pas nécessairement. La RTT est un dû. À partir du moment où, justement, vous ne posez pas, comme on dit, votre RTT, on va dire, d'une demi-journée, vous ne travaillez pas une demi-journée en plus. Vous vous privez d'une demi-journée de repos. C'est complètement différent. C'est en ce sens que, justement, il y a économiquement une similitude entre l'heure supplémentaire et la RTT payée, mais ça n'est pas la même chose, puisque d'un côté c'est un travail supplémentaire et que de l'autre c'est un repos en moins. Que la polémique soit reine, je veux bien, ça m'amuse, c'est presque mon métier, hein, mais en réalité, il faut, pour qu'elle ait un petit peu de gueule, que l'on ne dise pas tout à fait n'importe quoi.
Mais est-ce qu'on ne renvoie pas la responsabilité finalement du pouvoir d'achat aux entreprises?
Marie, en tout cas, l'État fait des dispositifs d'accompagnement, ça c'est une évidence, mais c'est aussi ce que l'on a dit et ce que l'on cherche à traduire dans ce texte de loi. C'est-à-dire que nous, depuis 5 ans et au cours du mandat à venir, nous voulons dire que nous savons que les entreprises sont en capacité de jouer le jeu, de faire confiance, de s'engager aussi. Enfin, vous savez, moi j'ai regardé le nombre de Français qui a perçu une prime Macron en 2021. Je crois que c'est 4 millions de nos compatriotes salariés. Le nombre de salariés qui ont bénéficié d'un accord de branche, on a pris, je crois, entre la loi Pacte qui a permis d'assouplir et de faciliter la mise en place des accords d'intéressement, aujourd'hui, il y a 1 million de salariés supplémentaires qui en ont bénéficié. Donc nous créons les conditions et les dispositifs qui permettent aux entreprises effectivement de reverser davantage de dividendes, d'intéressement, de participation à leurs salariés et de primes. Quand vous êtes une petite entreprise et que vous manquez un peu de visibilité, ou parfois une grosse entreprise dans les secteurs, par exemple, on a vu beaucoup de l'événementiel, où il y avait toujours un peu d'incertitude, notamment dans le cadre de la crise Covid, où on permet cette prime parce que ça permet de faire participer vos salariés quand vous avez une période un peu plus faste, sans pour autant vous engager sur une augmentation de salaire, par exemple. Donc ce sont des très bons mécanismes.
On est là au cœur d'une philosophie. J'entends certaines voix, dans une gauche bien marquée, nous dire « mais qu'est-ce que c'est que ces primes, qu'est-ce que c'est que ces enveloppes, ces chèques, ces allocations ponctuelles ? Il faut augmenter les salaires ». Et comme vous le disiez, madame, à l'instant, c'est peut-être dommage pour cette émission que nous soyons un peu d'accord, finalement.
C'est le hasard de l'actualité,
mais
des thèmes que nous traitons.
Comme vous le disiez, une entreprise, ça connaît des hauts et des bas. Et il faut savoir que les chefs d'entreprise n'ont pas comme rêve absolu de ne jamais payer leurs salariés ou au contraire de les faire travailler pour des salaires de misère. Ça, oui, c'est peut-être dans l'esprit d'un certain nombre de vos collègues, madame. On sait lesquels. Mais en réalité, c'est faux. Alors, le rôle de l'État est un rôle incitatif. Permettre à des entreprises de payer plus en exonération de charges et du côté du salarié en exonération d'impôts, c'est valoriser ce geste-là et faire en sorte que tout cela soit lié au fonctionnement de l'entreprise. C'est lié à l'évolution des affaires, au chiffre d'affaires. Tenez, vous savez, on nous dit, bon, est-ce que c'est du Macron, ça ? Peut-être ! Mais en réalité, c'est le capitalisme participatif du général de Gaulle.
Rien que ça.
Non, mais moi, je me retrouve tout à fait dans les propos de Maître Borgne, mais...
Ne le dites pas trop, on ne va plus nous réinviter.
Non, on ne réinvitera plus ensemble, c'est une évidence. Mais, ce qui est sûr, c'est que nous avons l'intime conviction que pour redistribuer de la richesse, il faut d'abord donner les conditions pour la créer. Nous l'avons fait, les résultats économiques sont bons, on a su recréer les conditions de la confiance pour les entreprises. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de nos concitoyens qui s'inquiètent parce que l'inflation, parce que l'augmentation des prix du carburant, que leur salaire ne leur permette pas de vivre correctement ou décemment ou selon ce qu'ils souhaiteraient et aimeraient. Ce qu'il faut, c'est aussi trouver des mesures qui permettent aux entreprises d'être agiles, de s'adapter rapidement. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent, beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent faire participer leurs salariés, qui veulent améliorer un peu leur rémunération ponctuellement ou dans la durée. Et il faut créer les outils pour cela et que ce soit simple. Ce que l'on veut, c'est que les entreprises elles aient un cadre agile, souple, qui soit respectueux du salarié, du travailleur, mais qui leur permette aussi de s'adapter au monde dans lequel elles évoluent. Et nous rentrons dans une période un peu de turbulence, il faut le reconnaître. Et donc, plus nous permettrons aux entreprises de s'adapter, et plus, je crois, elles protégeront leurs salariés correctement.
Alors, autre information de ce samedi, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, dans un communiqué, 17 associations LGBT demandent à la Première ministre les départs du gouvernement des ministres Béchu, Lecornu, Darmanin, en plus de Caroline Cayeux. La ministre des collectivités territoriales n'est pas la seule visée. tout ça pour des on peut entrer dans les faits. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette... cette info.
Alors, je n'ai pas vu, c'est un courrier ou une tribune, je ne sais plus.
Un communiqué.
Je n'ai pas lu le communiqué dans le détail.
Alors, bon, moi, j'ai vu qu'il y avait cette démarche faite, je crois, par des associations LGBT. Alors, voyez-vous, je suis de ceux qui considèrent qu'il faut que l'homosexualité soit regardée comme quelque chose de banal. Hein, et que cette ségrégation cesse d'une manière définitive. Mais il faut savoir d'où on vient. L'homosexualité, il y a quelques décennies, était encore pénale. De telle sorte que, lorsque je vois cette malheureuse Madame Cailleux, qui au fond ne tient pas des propos homophobes, elle dit que...
Elle dit ces gens-là, c'est un peu discriminant.
Ouais, bon, c'est peut-être une formule qu'elle a employée d'une manière qui n'était
en
pas...
En voulant se justifier de propos qu'elle avait tenus quelques années
oui,
auparavant.
Mais enfin, quand vous faites le bilan de son propos, c'était de dire « Je n'étais pas favorable au mariage pour tous, j'étais dans une sorte de réticence, qui devait être d'ailleurs celle d'un certain nombre d'autres Français relativement nombreux, et puis j'ai évolué, et puis j'ai compris. » Et si elle avait dit « la communauté homosexuelle » au lieu de dire « ces gens-là », parce que la connotation péjorative s'attache à cette expression, oui, c'est vrai. Qu'elle ait été voulue par la ministre quand elle s'exprime, franchement, quand on voit le reste du discours, je ne le crois pas. Alors, par les temps qui courent, hein, où il y a des fautes d'orthographe à chaque ligne, on ne va quand même pas faire un procès sur une expression inopportune.
Alors là, par exemple, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, est mis en cause pour une déclaration de 2012 où il déclarait que le communautarisme gay l'exaspérait, Marie Lebec.
Bah, peut-être sur tant les propos de Caroline Cailleux que les demandes de démission des autres membres de la majorité qui sont revendiquées par ce communiqué. Mais je comprends que les propos aient pu choquer, ils étaient malheureux, ils sont sortis du contexte. Ça peut être blessant pour une part de la population, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Et elle s'en est excusée, je pense, elle-même reconnaissant que l'expression était malheureuse et déplacée et qu'elle pouvait tout à fait choquer. Mais l'ensemble des membres de ce gouvernement actuel et ceux qui étaient aussi dans les gouvernements précédents, je crois, connaissent les positions du président de la République sur la lutte contre les discriminations dont peuvent soutenir les personnes LGBT, la communauté homosexuelle, pour faire plus clair. Les engagements que nous avons pris et que nous avons tenus à l'occasion du mandat précédent, l'ouverture de la PMA, par exemple, aux couples de femmes, et le fait que nous soyons très clairement engagés dans cette démarche. Madame Cailleux, quand elle accepte de rentrer au gouvernement, elle sait très bien quelles sont nos convictions et elle se met au diapason de ses convictions et je suis sûre qu'elle contribuera aussi à sa façon. On peut avoir un temps des questionnements, des interrogations personnelles. Je crois que toutes les questions de bioéthique, d'éthique, de sexualité relèvent de sujets très personnels et en revanche, la ligne, le cap, il est fixé par le président de la République, par les engagements pris par la majorité. Et à partir du moment où vous acceptez d'adhérer, d'entrer au gouvernement, vous adhérez au projet dans son ensemble.
Et par la loi aujourd'hui, puisqu'on peut être puni pour discrimination. Ok. Dernier sujet, la Corse, avec la visite de Gérald Darmanin depuis hier sur l'île de Beauté. Écoutez ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur concernant une éventuelle évolution de l'île vers l'autonomie.
Il ne faut pas être dupe d'un certain nombre de groupes criminels qui utilisent parfois les évolutions institutionnelles pour s'infiltrer et pour faire de l'argent sur le dos des Corses. Nous ne pouvons pas construire une éventuelle évolution institutionnelle qui irait vers une forme d'autonomie si nous n'avons pas les freins et les contrôles renforcés de l'État qui demain donneraient au banditisme un accès à ces nouvelles compétences.
Alors, maître Jean-Yves Le Borgne, faut-il accorder à la Corse un statut d'autonomie ?
Écoutez, il y a une spécificité de l'insularité. Nous le vivons dans un certain nombre de nos territoires d'outre-mer.
Vous êtes prêt aussi donc à accorder l'autonomie à l'île de Ré ?
Oh, n'exagérons pas. Je pensais plutôt à la Nouvelle-Calédonie.
Bon, d'accord.
De longue date, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un pouvoir législatif. Alors, bien évidemment, avec une réserve pour l'État en faveur de l'exercice de toutes les missions régaliennes. Mais la Nouvelle-Calédonie dispose d'un certain nombre de domaines dans lesquels elle légifère. Et d'ailleurs, comme j'y vais assez régulièrement, je fais toujours attention parce qu'il ne suffit pas de connaître le texte métropolitain. Il faut aussi savoir si ce texte est applicable en Nouvelle-Calédonie ou s'il n'y en a pas un autre, purement et simplement.
La coutume, c'est ça là-bas.
Oui, ça c'est un peu autre chose. Mais enfin, il y a une différence. Au fond, si demain il fallait que la Corse eut un pouvoir de disposition locale sur un certain nombre de faits locaux. Encore une fois, et ça fait écho à ce que disait le ministre à l'instant, d'une manière totalement étrangère aux problèmes d'ordre public, aux problèmes de justice, aux problèmes d'enseignement qui appartiennent à la communauté nationale, s'il fallait qu'il y eût une capacité de décision pour autre chose, pourquoi pas ?
Marie Lebec, votre position sur l'autonomie de la Corse ?
Alors, sans être une spécialiste absolue des sujets corses, ce qui est sûr, c'est que nous avons effectivement des territoires ultramarins avec des situations institutionnelles extrêmement diverses et qui, je crois, s'attachent à être le reflet des aspirations des ultramarins en fonction parfois de leur distance, de leur spécificité, de leur emplacement dans un environnement, par exemple, je pense à la Caraïbe, ou quand vous êtes dans la Caraïbe ou près de Madagascar avec La Réunion et Mayotte, ce sont des spécificités qui sont très, très fortes. Et donc, je crois qu'il est très important de réfléchir à ce à quoi aspirent les Corses et comment est-ce qu'on l'y conduit de manière la plus sécurisée possible pour que, effectivement, le transfert d'une part des compétences soit effectif, efficace et puisse au mieux servir les intérêts de la population, puisque, effectivement, l'insularité a toutes ses spécificités. Et en un mot très rapide, il y a eu des engagements qui ont été pris à l'occasion du mandat précédent, de réfléchir à comment est-ce qu'on redonne des marges de manœuvre, quitte à aller jusqu'à l'autonomie pour la Corse. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a ces discussions. Et je crois qu'il faut accepter aussi que ça fasse l'objet de concertations assez longues, puisqu'il y a certainement aussi des aspirations différentes pour les Corses et sur ce qu'ils souhaitent et le degré d'autonomie qu'ils cherchent à atteindre.
Maître Leborne, rapidement, est-ce que vous pensez que les Corses aspirent à cette autonomie, pour prolonger la question ?
Vous savez, les Corses sont dans leur majorité très attachés à la France. L'idée de l'autonomie, l'idée... Bon, mais ils veulent néanmoins être reconnus dans leur spécificité, ce qui me paraît tout à fait respectable. Et je crois que cette sorte d'équilibre entre le pouvoir de la métropole, vous voyez, je dis déjà la métropole.
Et les mots souvent trahissent les idées.
Ce qui se déciderait sur place constituerait un équilibre souhaitable. Ce qu'il faut, et c'est un peu aussi ce que disait le ministre tout à l'heure, c'est que partout règne la paix et la fraternité.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie Lebec, députée Renaissance des Yvelines. Merci à vous Jean-Yves Leborgne, avocat pénaliste. Bonne soirée. À suivre dans un instant sur Europe 1, le journal de 19h. Et puis à 19h15, Panorama, consacré ce soir au bonheur en été. Comment réussir ses vacances, comment passer un bel été. Nos invités vont vous donner leurs conseils. A tout de suite sur Europe 1.